Appel d'air, Céline, sur Radio Grand Ciel. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette émission d'Appel d'air, nous allons partir vers l'ouest de l'Europe. Nous allons en Irlande. Et on commence tout de suite en musique avec un groupe d'Irlande du Nord qui s'appelle Two Door Cinema Club. Leur titre s'intitule « The World is Watching ». Le premier roman d'Anne Griffin s'intitule « Toute une vie et un soir ». Il est publié aux éditions Delcourt. C'est un soir particulier pour Maurice Hannigan qui a 84 ans. Il habite dans le village de Rainsford, dans un comté pas très loin de Dublin. C'est un fermier à la retraite qui décide que sa vie va prendre un tournant. Depuis 2 ans, Maurice est seul. Sa femme, Sadie, est décédée. Il ne supporte plus la situation, tout lui rappelle sa femme à la maison. Il a donc décidé de tout vendre, la maison, la ferme. Seul son notaire est au courant, il lui a déclaré qu'il partait en maison de retraite. Maurice est prêt, sa valise aussi, et il a choisi de passer une soirée à l'hôtel du village, plus précisément au bar de l'hôtel. Même s'il est tout seul, il va porter des toasts, 5 toasts, à ceux qui comptent le plus dans sa vie. Maurice va trinquer avec de la bière brune ou du whisky. Il va évoquer ses souvenirs au fil de la soirée, comme s'il s'adressait à son fils, qui en fait vit aux États-Unis. Il va nous parler tout au long du roman. Maurice commence par rendre hommage à son grand frère, Tony, qu'il a toujours considéré comme son meilleur ami, comme son héros aussi. Tony, qui est parti trop tôt, qui est décédé alors qu'il était encore un jeune homme. Si on se moquait de Maurice à l'école, Tony était toujours là pour le défendre. Maurice se remémore sa jeunesse dans cette famille de 4 enfants. Il se rappelle ses débuts à l'école, ses difficultés pour lire, au point qu'on l'a mis au travail comme garçon de ferme dès l'âge de 10 ans, au service de la famille Dollard, la famille des plus riches propriétaires du village, une famille pour laquelle sa mère travaillait. Maurice gardera des souvenirs douloureux de cette époque, de quoi nourrir de la rancœur pendant de longues années. Maurice adresse ensuite un toast à un autre homme, qui est son fils, Kevin. Kevin qui n'a pas suivi le chemin de son père. L'exploitation agricole et les affaires ne l'intéressaient pas. Kevin est plutôt doué pour les études, il est devenu journaliste et il a quitté le pays pour aller vivre aux États-Unis. Les deux hommes sont très différents. Maurice se considère, je cite, comme un vieux grincheux, même pas foutu de lire 2 mots à la suite, mais il est très fier de son fils, même s'il n'ose pas lui dire. Le troisième toast est destiné à Molly. Molly, c'est la petite fille que Maurice et Sadie n'auront pas vu grandir. Elle est partie trop tôt. Maurice déclare « Il y a 49 ans, j'ai rencontré Molly une seule fois et seulement un quart d'heure. Depuis, elle a continué à vivre dans mon vieux cœur fatigué. » Maurice va également trinquer à la mémoire de Norine, la sœur de Sadie, une jeune femme affectueuse qui vivait dans son monde à elle puisqu'elle était handicapée mentale. Une jeune femme qui a beaucoup compté pour Maurice et Sadie, qui a joué un rôle particulier dans leur vie. Le dernier toast de Maurice est bien sûr destiné à son grand amour, Sadie. Il raconte avec émotion leur première rencontre à la banque où elle travaillait. C'était une jolie jeune femme venue du nord du pays qui l'a tout de suite séduit avec son charmant accent du Donegal. Tous les souvenirs que Maurice livre au cours de la soirée sont ponctués de discussions avec Emily, la jeune femme qui tient l'hôtel. Le roman retrace la vie de cet agriculteur redoutable en affaires et du coup même redouté. Un homme un peu sauvage, un peu bourru, mais aussi un père aimant, un homme amoureux. Maurice n'est pas un héros avec une vie trépidante, c'est juste un homme loin d'être parfait qui revient sur sa vie avec simplicité et qui nous donne parfois les larmes aux yeux.
Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two were nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn and leaf, for I was born, got a stout black sword, a banished ghost, and goblets, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. It's a double of 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double a mackerel all the day. In Mullingar that night I rested limb so weary, started by daylight next morning late, and there he took a drop of the pure to keep me heart and shrink, and that's the paddy's cure. When there is up for drinking, they hear the lassie smile, laughing all the while at me curious style, to touch a heart above, and he asked me was I hired and wages I required, till I was almost tired of the rocky road. It's a double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn him down the rocky road, and all the way to double and make for lullida. In double and next arrived, I thought it such a pity to be so still in the private view of Dunfin City. Then I took a stroll all among the quality bundle, it was stolen in a neat locality. Something crossed me mind when I looked behind, no bundle could I find upon me stick of war, and inquiring after the rogue said me cunneth brogue, it wasn't much in Bowick on the rocky road. To double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt ahead and turn them down the rocky road, and all the ways to double and make for lully da. From there I got away, me spirits never failing, and it on the cage just as the ship was sailing. Captain at me road said that no room hardy, when I jumped aboard a cabin flew for paddy, down among the pigs did some hearty rigs, I played some hearty jigs, the water ruined me bubbling, when off holy head I wished myself was dead, or better far instead on the rocky road. To double and 1, 2, 3, 4, 5, up the hill and turn down the rocky road, and all the ways to double and make for lully da. The boys of Liverpool, when we safely landed, called myself the fool, I could no longer stand it, blood began to boil, temper I was new as impure old air and oil. They began abusing harami, so well says I, me shillelagh I let fly, Galway boys were by, and so I was a hobbling with the low hooray, the joy and in the affray quickly cleared the way for the rocky road. To double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double and make for lullida.
Nous venons d'écouter dans un premier temps le groupe Altan avec leur morceau A Tune for Frankie. Et à l'instant, c'était le groupe The Dubliners avec leur titre The Rocky Road to Dublin, une des nombreuses chansons évoquées dans le roman Charlie le Simple, un roman de Kieran Collins. Dans ce roman, c'est un homme qui s'exprime, un jeune homme de 25 ans, Charlie, qui vit dans un petit village dans le comté de Cork au sud-ouest de l'Irlande. Depuis l'enfance, Charlie est surnommé le Gamal, le simple d'esprit. Il est toujours seul, il parle peu, il n'est pas doué à l'école. Mais il n'est pas bête, Charlie, contrairement à ce qu'il aime laisser penser. Ce roman que nous lisons, c'est en fait le livre qu'il écrit. C'est son médecin, le psychiatre, le docteur Quinn, qui le pousse à raconter par écrit le drame qu'il a vécu 5 ans plus tôt. Charlie mettra du temps à évoquer les faits. On sait juste au début du roman qu'il y a eu un mort, un corps a été découvert, il y a également eu un procès, puisque Charlie évoque et même retranscrit parfois des extraits des dépositions. Pour Charlie, quitte à écrire, autant gagner de l'argent. Il a bien l'intention de vendre son livre et pour ça, il s'est donné comme but d'écrire au moins 1000 mots par jour parce que le docteur Quinn lui a dit que c'est ce que faisaient tous ceux qui voulaient être écrivains. Charlie n'aime pas les livres, pourtant il ne les a jamais aimés. Il ne faut pas s'attendre à trouver dans son livre, je cite, « d'interminables longs passages fleuris, poétiques, pittoresques, pleins de crétineries décrivant à quoi les choses ressemblent ». Il nous prévient dès le départ aussi avec un autre truc, cet autre truc, je cite, « c'est que vous n'allez pas muer ». Même si c'est difficile et douloureux pour lui, il écrit car il a conscience d'être le seul à pouvoir raconter ce que personne d'autre ne sait. Charlie nous parle de ses deux amis, deux êtres exceptionnels à ses yeux, Sinéad et James. Sinéad, c'était sa première amie. À l'école, à l'âge de 5 ans, elle a pris sa défense face au professeur, elle l'a toujours accepté tel qu'il était. S'il passait Charlie la récréation perchée dans son arbre, elle était toujours en dessous. Peu de temps après est arrivé James au village avec ses parents, des parents qui mènent une vie un peu plus aisée que celle des autres familles, des parents qui aiment l'art et la musique, et surtout un détail qui a son importance, des parents qui viennent d'Angleterre. Entre les deux enfants, Sinéad et James, dès la première rencontre, c'est l'entente parfaite, ils ne veulent plus se quitter, et à l'adolescence, c'est un amour fort qui va se développer entre eux. Leur rencontre s'était faite autour d'une chanson à l'école primaire. Ils vont toute leur vie partager cette passion pour la musique. Ils grandissent en écoutant les disques des parents de James. Ils composent des chansons. Sinéad chante et a une voix magnifique. Et Charlie est toujours à leur côté, le témoin fidèle des rêves de ses amis, leur rêve de devenir musicien. Cette relation idyllique entre les deux amoureux n'est pas vue d'un bon œil par tous les autres jeunes du village. Sinéad et James veulent une vie différente. Ils rêvent de partir, d'aller à Dublin, voire aux États-Unis. Et Charlie nous dévoile peu à peu comment la jalousie et les moqueries se mettent en place, comment une violence insidieuse contre ces deux jeunes amoureux s'est instaurée. Charlie avance dans son récit à son rythme, parfois la douleur est trop vive. Son récit dramatique nous intrigue, on appréhende de savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais l'humour est aussi présent dans ce roman. On s'attache à la voix de Charlie, qui écrit comme il parle. Lorsque son psychiatre lui donne des conseils en matière d'écriture, lorsqu'il l'invite notamment à faire des comparaisons pour varier un peu son style, et bien pour le narguer, Charlie va écrire 3 pages de comparaison. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et par moments, plutôt que d'écrire, Charlie aime ponctuer ses pages de dessins ou de photos. Il aurait bien aimé également retranscrire des paroles de chansons, mais pour des raisons de droit, ça n'est pas possible. Charlie a trouvé une parade, il nous met des lignes à la place et nous dit « à vous d'aller les chercher ». La musique est en effet essentielle dans ce roman, il y a de nombreux titres qui sont cités. Charlie et ses amis ont grandi avec les disques des parents de James, des disques de Nina Simone, Sam Cooke, Johnny Hooker, Edith Piaf, de la musique classique aussi. Ils écoutent également les groupes de leur jeunesse, Nirvana, U2, Pearl Jam, et puis il y a également la musique irlandaise, bien sûr, qui est essentielle dans ce roman. Charlie le Simple est un premier roman inventif et poignant, un roman de Kieran Collins, publié aux éditions Joël Losfeld.
Must I always explain my intentions? Can you never take my word? These are the things that are sent here to test us, but they only pull us together. Only pull us together. If I had the ability. together. Only pull us together. Get into my car, we'll drive so far. You should be glad that you're getting away. Monkey in a cage, a pinnacle of rage. Be dang, be dang, be dang, be dang, bang, bang. Get into my car, we'll drive so far. You should be glad that you're getting away. Monkey in a cage, a pinnacle of rage. Be dang, be dang, be dang, be dang, bang. If I drink, it will change my demeanor. If I don't drink, I'm no one at all. These are the things that are sent here to test us, but they only pull us together. Pull us together. If I'm clever, I'll never be captured. If I burn at the stake, I'll apologize. These are the things that are sent here to test us, but they only pull us together. Only pull us together. Get into my car, we'll drive so far. You should be glad that you're getting.
Écoutez dans un premier temps le groupe The Undertones, un groupe originaire du nord de l'Irlande, de Derry. Et à l'instant, c'était le groupe The Driven, qui est originaire du comté de Limerick, un peu plus au sud du pays. Et c'est justement dans la même région que vit l'écrivain Donald Ryan, l'auteur du roman « Tout ce que nous allons savoir », publié aux éditions Albin Michel. Après avoir découvert dans cette émission les deux voix de Maurice et Charlie, cette fois, c'est la voix d'une femme qui nous est dévoilée dans ce roman. Mélodie, la narratrice, a 33 ans. Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Le problème, c'est qu'elle n'est pas enceinte de son mari, Pat, mais d'un jeune homme auquel elle apprenait à lire et écrire. Mélodie est enseignante. Et elle donnait des cours à ce jeune homme issu d'une famille de gens du voyage. Son mari, Pat, est son premier et seul amour. Ils se sont mariés très jeunes et rapidement, les relations sont devenues tendues entre eux. Les paroles blessantes étaient prononcées presque au quotidien, souvent à l'initiative de Mélodie d'ailleurs. Comme elle le dit elle-même, ils sont partis en guerre l'un contre l'autre. Pourtant, ils s'aiment passionnément, mais leur couple est sur le point de s'écrouler et la grossesse inattendue de Mélodie va porter le coup de grâce à leur relation. Ces mois de grossesse vont être l'occasion pour Mélodie de faire le point sur sa vie, de revenir en arrière. Elle pense d'abord à ses années de mariage, à toutes les crises que le couple a traversées. Mélodie déclare, page 113, « Je ne supportais pas la stabilité, le terrain plat. Je ne pouvais pas exister en suivant une ligne droite et continue, sans pic ni vallée pour me cacher de moi-même. Je fabriquais de toutes pièces ses passions, ses épreuves, pour me convaincre que j'avais une vie. Mélodie a perdu sa mère très jeune, elle avait 14 ans. Sa mère était blessante, plutôt froide avec son père, qui lui au contraire est un homme doux et aimant, qui a toujours été là pour sa fille. Il est toujours d'ailleurs à l'âge de 72 ans. On découvre surtout dans ce roman que Mélodie est finalement une jeune femme très seule, elle n'a pas d'amis. La seule amie qu'elle a eue à l'adolescence, elle l'a trahie et elle l'a perdue. Mélodie, en voulant retrouver le père de son enfant, va faire la connaissance de Mary, qui fait partie elle aussi des gens du voyage, une jeune femme de 19 ans. Mélodie va découvrir avec elle une vie complètement différente de la sienne, une vie où le poids de la famille et les notions d'honneur et de trahison pèsent énormément. Mélodie revient sur ses échecs, ses trahisons, ses preuves de lâcheté aussi. L'auteur dresse un portrait sans fard de cette jeune femme. On est loin ici de découvrir une héroïne attachante dès les premières pages, elle est vraiment décrite dans toute sa complexité. Et si Mélodie éprouve du désespoir dès le début du roman, elle est capable malgré tout de se remettre en question et de chercher une certaine forme de rédemption. C'est un roman dans lequel les moments douloureux, parfois même effrayants, alternent avec des moments plus doux et lumineux. Donald Ryan réussit avec subtilité à nous faire entendre la voix de Mélodie. Tout ce que nous allons savoir est son troisième roman publié aux éditions Albin Michel. Cette émission consacrée à l'Irlande se termine. Je vous remercie d'avoir écouté Appel d'air. À bientôt pour une nouvelle émission.
Too loose to fear, or you comfortable?